RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. C'est l'heure des GG, les grandes gueules. 9h passé, nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct avec vous, bien sûr, au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Elina Dumont, intervenante sociale. Bonjour ma chère Elina.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec le docteur Jérôme Marty. Bonjour Jérôme.
Salut à tous.
Et puis Mehdi Guézard est avec nous, chef d'entreprise.
Bonjour à tous.
Le Mehdi Challenge.
Alors, on en est où alors?
35 jours.
On affiche les jours.
35 jours.
Vous savez
que je compte plus là.
On compte pour toi.
Ah moi je compte plus.
C'est le défi de Mehdi Guézard. Il a arrêté de fumer. Il doit tenir jusqu'à ce que ça lui passe.
Je tiens.
35 jours sans une seule cigarette.
Rien du tout.
Rien.
Que de la nicorette.
Que de la déchouette.
Je voulais dire, mais ça tombe pas dans des états. Parce que moi, par rapport à mes cordes vocales, malheureusement, il faut que je pense à arrêter. Et j'ai essayé plusieurs fois. Mais ça me rend dingue.
Écoute,
j'ai l'impression que je vais taper tout le monde. Quoi,
on en a parlé ce matin avec le docteur. C'est la première fois que je tiens aussi longtemps.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose déjà assez exceptionnel. Et deuxièmement, le matin, c'est dur pour le café. Ça, quand tu te réveilles, c'est sûr que c'est pas le moment le plus agréable de la journée quand tu te réveilles. Mais après, ça y est, au bout de 3 semaines, au bout de 21 jours, docteur, je crois que le sevrage commence à se faire automatiquement. C'est-à-dire que la nicotine commence à sortir au fur et à mesure de ton corps. Et
il a arrêté pour la meilleure raison qui soit, parce qu'il m'a dit qu'il avait arrêté pour son fils.
Exactement.
Ah, c'est beau.
Et tu grossis pas, ça va?
Non, pour l'instant, ça va. Enfin, je sais pas, mais je pense pas, j'espère pas. Je me suis pas encore pesé, mais j'espère pas en tout cas.
Ton corps,
on voit que même la peau a changé. Ouais. Quoi.
Il a bonne mine. Hein.
Oh, c'est le maquillage aussi. Ce matin, ils m'ont rafistolé. Je salue les maquilleuses.
De combien de temps réellement les bienfaits de l'arrêt du tabac commencent à se faire sentir
Rapidement. Au bout d'un mois, déjà, tu commences à avoir des effets. Alors, en plus, si tu allies ça à la reprise de l'activité physique, parce qu'en général, les gens qui fument beaucoup ont arrêté l'activité physique et on leur demande de
la reprendre une.
Et c'est là où tu vois effectivement une vraie progression.
Donc tu conseilles à Mehdi de faire un peu d'activité physique.
On fait des matchs. Mon entreprise fait des matchs d'ailleurs je le salue, avec Eric Guénoun, avec notre comptable.
Tu retrouves le goût. Tu retrouves le goût des aliments.
Ouais, tu retrouves le goût. Franchement, l'odorat, le goût. On dirait que c'est le Covid. En fait, quand tu fumes, on dirait que t'as le Covid. Non, mais c'est un truc de fou.
Mais dis-moi, il y a un truc que je comprends pas et j'ai demandé à des gens qui ont arrêté de fumer. Moi, quand j'ai tenté d'essayer, je ne peux plus dormir. La première semaine, les dix premiers jours.
Parce qu'elle fume la nuit aussi.
Non.
Elle fume dans son lit. Elle se réveille, elle fume.
Non, mais la première semaine, les 10 premiers jours sont terribles. Hein.
Oui.
Ah,
oui.
Quand même.
Ah oui, non.
Franchement, t'as un mal de tête de dingue. Bon. De dingue. Vraiment.
Allez, Mehdi Challenge continue. La prochaine fois que tu viendras, on prendra encore des nouvelles, bien sûr. Allons-y pour notre premier sujet de discussion. Contre la réforme des retraites, la grève en plein chassé-croisé des vacances, est-ce bien raisonnable? On en parle tout de suite.
RMC, les grandes gueules.
Solidarité avec la CGT. Solidarité avec la CGT.
Alors vous savez qu'il y a 2 jours de mobilisation qui sont arrêtés, les 8 et 11 février, enfin les 7 et 11 février, mais il y a une date véritablement qui pose problème et qui fait débat au sein même de l'intersyndicale, c'est celle du samedi 11 février.
Oui, parce qu'on sera en pleine vacances scolaires pour 2 zones. C'est un chassé-croisé ce samedi 11 février entre la zone A et la zone B. Et donc, cette journée de grève ne fait pas consensus. Les syndicats, les RATP ont décidé de se mobiliser à cette date. Et à la SNCF, en fait, il y a une scission. Il y a d'un côté la CGT Sudrail qui appelle à faire grève du transport des trains ce jour-là. En revanche, une SAFER qui est le deuxième syndicat à la SNCF, semble préférer quand même une grève le 7, mais plutôt un appel à mobilisation le 11. Voilà, parce que l'UNSA Ferroviaire a peur de trop gêner les usagers ou les clients, et surtout de rendre ce mouvement populaire impopulaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un soutien fort de la population. Sauf que si vous empêchez les Français de partir en vacances ou de revenir de vacances, ça va être plus compliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut... pour les grévistes être sur une ligne dure et continuer à faire pression sur le gouvernement, quitte à sacrifier des journées de vacances, ou au contraire, il faudrait plutôt être raisonnable et ne pas toucher à ce samedi 11 février.
32-16 pour le dire au juger, dire aux grandes gueules. Jérôme, docteur,
compliqué. Oui, compliqué, parce que le syndicaliste que je suis va pas te dire que, si tu veux, il s'oppose aux grèves et aux mouvements sociaux, mais... Ce qui est certain, c'est que on vit une époque où les Français sont fatigués, où ils te disent tous qu'ils ont besoin de vacances, qu'ils ont besoin de décompresser. Et donc, aller en quelque sorte faire porter sur les Français le poids d'une revendication sociale, c'est un pari dangereux, quoi. C'est un pari dangereux parce qu'effectivement, une grève, elle tient et elle est efficace si tu as le soutien de la population. Si ce soutien commence à baisser, tu fais le jeu du gouvernement. Donc, c'est toute la question que doivent se poser ceux qui organisent ce type de grève. Et puis, la lutte contre les retraites, elle est globale. Ça veut dire qu'elle touche tout. Les métiers, tout le champ, tout le prisme social, et une catégorie peut donc aller en quelque sorte gêner les autres mouvements, quoi. Et donc c'est une drôle de responsabilité qu'ils peuvent prendre. Donc moi je serais eux, je le ferais pas, honnêtement.
Tu ferais plus un appel à manifester que la grève.
Cette grève, elle est là pour durer. On sait on sait que ça va durer. Ce mouvement va durer. Donc on peut très bien attendre de passer cette zone-là, de laisser les Français tranquilles pendant cette zone-là pour les avoir avec soi sur un mouvement qui normalement est appelé à grossir et à durer dans le temps.
Donc le syndicaliste que tu es préfère la manifestation à la grève ce jour-là.
Oui, ce jour-là. Oui.
Ce jour-là. Oui. Elina.
Je voudrais comprendre, mon cher. Mais pour moi, faire une manifestation, c'est faire grève.
Ah non, parce que tu.
Mais tu bloques pas les jambes.
Tu peux défiler sans faire grève.
Okay. Oui.
C'est-à-dire que ceux qui sont dans la rue sont ceux qui ne bossaient pas ce jour-là, par exemple.
D'accord, ok. Bon, alors, pour répondre à la question, moi, écoute, moi, je suis comme ça. Moi, quand je suis concerné par un combat, je vais au bout de ce que je pense. Donc, moi, je ferai grève.
Oui.
Mais oui, parce que. Rien n'empêche aussi aux gens
de s'organiser.
C'est le 7, c'est ce que tu as dit.
C'est le 11, le 7, le mardi, le samedi.
Le chassé croisé, c'est le samedi.
Moi, écoute, moi aussi, j'ai des combats, alors d'autres. Mais écoute, je sais pas, ils reviennent le 6 ou ils partent le 8.
Ils débrouillent, quoi.
Oui, voilà, on s'organise.
Ah, c'est compliqué parce que la location, c'est du samedi au samedi.
Et oui, c'est ça.
Oui, mais bon, attends. Faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Oui, peut-être.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Alors, mais si on est persuadé qu'il faut faire plus le gouvernement,
parce que là,
les vacances, ça doit être secondaire. Bah, je suis d'accord avec toi.
Écoute, quand on entend tous les gens, en plus, la réforme des retraites, on entend que ça tous les jours à la télé. Écoute, ils en veulent. Même ceux qui sont dans le privé, ils disent, moi, je peux pas faire la grève, mais je les soutiens. Bon, après, voilà. Pour moi, aller en vacances, c'est un luxe, hein.
Enfin, c'est moi. Oui,
donc,
mais c'est un luxe.
Les conditions passent avant les vacances.
Par rapport à la réforme des retraites.
Non, mais t'as des gens qui ont pu, si tu veux, réserver depuis longtemps, qui ont mis de l'argent de côté pour avoir ces vacances avec leurs enfants, etc. Ils pourront potentiellement pas se faire rembourser, donc ils vont perdre ces vacances, et ceux-là, ils vont l'avoir vraiment difficile face aux grévistes, quoi. Ils vont l'avoir mauvaise.
Moi, j'ai une question, docteur. Je vais encore me faire défoncer sur les réseaux sociaux, hein. J'ai l'habitude. Moi, les réseaux, c'est pas un problème. Mais je vais être un peu sarcastique. Quelles sont les dernières vacances scolaires où il n'y a pas eu de grève de la SNCF? Je pense qu'il faudrait prendre question
dans les prochaines. À Noël, on y a eu droit,
Mais même les vacances de la Toussaint, on en a eu droit. Il y avait aussi une grève de la SNCF. L'été dernier, vous vous rappelez pas les départs en vacances, il y avait une grève. Enfin, quelles sont les dernières vacances scolaires où il n'y avait pas de grève de la SNCF? Moi, voilà la question. C'est pas est-ce que ça va déranger le chassé-croisé? Ça, on a l'habitude. Donc, à un moment, prendre en otage, parce qu'attention, quand tu dis prendre en otage pour des grévistes, pour la SNCF, c'est ça y est, tu te fais dégommer, tu es un ultra-libéral, t'es le toutou de Bernard Arnault, tu sais comment ça parle sur les réseaux. Donc, d'ailleurs, une personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais moi, la seule chose, c'est à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires,
on a une grève.
Il y a une grève. Donc, à un moment, tu te dis, quand tu fais des grèves pour des gars qui prennent le train, qui prennent leurs billets 2-3 mois avant pour payer des billets moins chers et tout ça, tu crois que tu vas faire chier qui en faisant ces grèves-là? Tu crois que tu vas faire chier Bernard Arnault? Non, mais honnêtement, tu vas faire chier les grands patrons du CAC 40?
Non, tu fais ça. Tombes sur celui qui effectivement.
Donc, il faudrait juste savoir se poser les bonnes questions.
Moi, je dis rien.
On est vendredi matin, il est 9h15. Après, chacun, on fait ça. Ça papouille, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excusez-moi. Ça papouille. Il en fait ce qu'il en veut, quoi.
Ça papouille.
Elina.
Ouais, ce que j'aurais à dire, moi.
Je suis désolé.
C'est que.
Tu mets les pieds dans le plat.
Ça, c'est bon, tu t'es calmé.
Je t'en prie.
Bon, d'accord.
N'oublie pas que j'ai pas de
nicotine dans le sang. Par rapport à l'inflation, tout ce qui augmente. En tout cas, moi, je sais que la majorité des personnes que je connais, eux, ne partiront pas en vacances d'office.
C'est vrai.
Alors,
aussi.
Qui part encore en vacances?
C'est pas faux.
Là, j'ai appris que au sport d'hiver, ça cartonne. Excusez-moi, c'est qu'il y a de l'argent quelque part. C'est ceux qui ont de l'argent. Moi, personnellement,
il y a beaucoup d'étrangers quand même. Hein.
Il y a une France qui peut partir en vacances.
Oui, c'est évident.
C'est pas parce qu'il y a une France qui peut partir en vacances qu'il faut la bloquer et l'embêter aussi.
Oui, mais enfin, une grève, pour que ce soit efficace, il faut que la faire au bon moment, quoi. Tu vas pas la faire
donc,
le jour.
Dans ces cas-là, il faut aller sur la gêne maximum, quoi, en fait. C'est ça.
Moi, je vois pas.
Plus tu emmerdes de Français, plus ça forcera. Plus ça forcera le gouvernement à bouger.
Oui, mais en même temps, ces dernières années, le gouvernement a plié lorsque les choses étaient bloquées. Le problème, c'est que les politiques ont ces dernières années donné raison à ceux qui bloquaient. Il y a eu les gilets jaunes.
Ça a fonctionné quand même.
Il y a eu les bonnets rouges.
Ah oui, ça a fonctionné. Le litre de gasoil est à 2 euros, ça a fonctionné.
Les bonnets rouges. Des trucs quand même.
Ah, mais ça a fonctionné.
Les bonnets rouges ont obtenu gain de cause quand ils ont commencé à payer des barrières, écotaxes, etc. Mmh. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que le responsable politique donne l'impression que s'il n'y a pas de blocage, voire de violence, une
regarde la ZAD à Nantes.
C'est très dangereux.
Ça a marché aussi.
En fait, sur les vacances, c'est intéressant de savoir quelles sont les classes sociales qui partent en vacances en train.
Mais regarde, je
suis pas sûr que ce soit les plus riches qui partent
malicieux.
En vacances en train.
Non, tellement c'est malicieux.
Je suis pas sûr du tout. Hein. Docteur. Parce que les plus riches, ils partent en avion ou en voiture, mais pas en train.
Mais docteur, regarde tellement
c'est. Les écolos qui prennent le train.
Donc en train, tu gênes justement ceux qui ont les moyens les plus élevés.
Regarde tellement c'est pervers le truc. Les gilets jaunes, ça a marché. Il était à 1,70, on est à 2,05, personne n'ouvre sa gueule. Les bonnets rouges, ça a marché. Ils ont enlevé l'écotaxe, les péages ont pris 5% en chaque année depuis 4 ans ou 3 ans. Ah mais c'est quand même pour la route, c'est quand même de la taxe supplémentaire, c'est quand même des impôts supplémentaires parce que jusqu'à preuve du contraire, les autoroutes appartiennent, même si c'est une concession, appartiennent à la France. Donc tu vois que ça a marché. Non mais t'imagines que ça a marché. Là, dans les subconscients des gens, on a
mais
fait.
Mais il t'aura pas échappé que les gilets jaunes et les bonnets rouges, c'était pas les syndicats. Hein.
Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que quand. Non, mais je vais sur le terme d'Olivier qui te dit si les manifestations, quand il y a des manifestations, peu importe que ce soit des manifestations syndicales ou de personnes de sociétés publiques, que ça a marché. Non, ça n'a pas marché, parce que regarde, si tu vas 2-3 ans après, c'est 2 ou 3 fois pire.
Non, mais donc, c'est autre chose. C'est pas le même débat. Je dis simplement, c'est que pour l'instant, les syndicats canalisent les choses, parce que c'est leur rôle aussi de canaliser la colère sociale, de discuter. Plus le gouvernement ne voudra pas entendre, moi je pense que ça va se radicaliser et qu'on va avoir des mouvements sporadiques qui vont échapper aux syndicats via des collectifs sur Facebook et autres.
Comme les contrôleurs de train au mois de décembre.
Alors attends, on a Patricia qui est avec nous, qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bienvenue Patrice. Alors, est-ce qu'il faut faire grève ce week-end de chasse et croisée, oui ou non alors?
Mais bien sûr, il faut tout bloquer. Il faut tout bloquer et tant pis pour les vacances. De toute façon, ce gouvernement, comme les précédents, ça fait 40 ans que ça dure, donc on va pas tout le remettre sur le dos. Depuis 40 ans, on nous appauvrit. On nous martyrise, entre guillemets, et aujourd'hui, ils font les autistes. Ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait 3 millions de personnes dehors. Pour eux, c'est leur ligne de conduite, c'est eux qui ont raison. Mais eux, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ne voient pas ce qui se passe en bas.
Sans mauvais jeu de mots, c'est la politique de l'autruche, ce qu'ils sont en train de faire.
Exactement, ils sont là, ils n'en ont rien à foutre. Alors c'est vrai que je comprends tout à fait... celui qui a réservé ses vacances au ski, qui vont être perturbés, qui va pas pouvoir rentrer, qui va pas pouvoir y aller. Personnellement, en plus, je suis impacté parce que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un appartement à la montagne que je loue pour le mois de février. J'ai eu deux annulations, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère que
le combat en vaut la peine, c'est ça. C'est le combat en vaut la peine.
Bravo, hein.
On partira.
Non, franchement, j'aime bien.
Vous faites quoi dans la vie, Patrice ?
Je suis sapeur-pompier.
Sapeur-pompier, et cette réforme des retraites, pourquoi vous n'en voulez pas alors ?
Ben, j'en veux pas parce qu'elle était injuste. On prend toujours. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas revoir peut-être la façon de travailler, le temps, tout ça, mais pas aussi brutal. Le gouvernement, c'est des brutes. Il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune discussion. Moi, j'ai été syndicaliste pendant 18 ans, élu au sein d'un bureau national.
Dans quel syndicat ?
Le syndicat Sud.
Le Sud, d'accord.
Tous les ministres qu'on a pu rencontrer, oui, mais jamais rien n'est pris en compte. Le français, de la classe moyenne à la classe plus pauvre, entre guillemets.
Populaire, quoi.
Populaire, voilà, j'ai cherché le mot, merci. On est tous mis sur l'échafaud. Aujourd'hui, comment comment peut vivre une personne avec 1200 euros? Comment? Comment dans ce pays?
Et c'est en brut en plus. Hein.
Oui, mais qui
est même pas
dans ce pays?
Oui, mais enfin, c'est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui.
Qui est la sixième puissance mondiale, soi-disant, des gens ne peuvent pas manger. Des gens qui travaillent sont obligés de vivre dans leur voiture. Pendant que nous gouvernons, pendant que nos gouvernements successifs, ils s'empiffrent de caviar.
Non,
oh, quand même.
Oh, ça, c'est pas exagéré.
C'est des magots, ça. C'est dommage, c'est vous n'étiez pas mauvais, là. Vous vous trouvez dans des magogies.
C'est argumentaire, là.
Écoutez.
Si c'est ça dire... votre argument principal.
Non, je vais vous dire une chose. Le 6 janvier 1992, sous l'ère de M. François Mitterrand, oula, j'ai été invité en tant que pompier de Paris à manger à l'Élysée.
Oui, mais vous allez à l'Élysée.
J'ai jamais autant bien mangé de ma vie.
Non, mais oui, ça a un peu changé.
C'est
quand même.
C'est pas ce qu'il vous recevez.
C'était la gauche caviar, donc.
C'était pas ce qu'il vous recevez.
Oui. C'était sous la gauche, alors.
La gauche caviar. Oui, mais vous allez, oui, d'accord, non, mais vous allez à l'Élysée.
Ils vous ont reçu en disant, vous verrez, dans 30 ans, il en parlera encore.
Non, mais bien sûr. Bien sûr que si vous allez dans les ministères, on mange très bien, à l'Élysée, etc. Après, résumer nos responsables politiques à ceux qui s'empiffrent.
Il y a moins de 3 ans, j'étais au ministère de l'Intérieur.
Oui.
Voilà.
Et là,
eh ben, quand vous voyez tout ce qui s'y passe, mais c'est hallucinant.
C'est-à-dire
mais vous voyez, vous avez la cantine au deuxième étage, au troisième étage, je ne me rappelle plus, pour tout ce qui sont les conseillers des ministres, et puis je peux vous garantir qu'ils ne mangent pas des steaks hachés et des pâtes. Et puis au premier étage, vous avez ben, pour les secrétaires, ces choses-là. Voilà. Au bout d'un moment, dans cette société, et notamment au niveau de l'État, alors après, attention, hein. Sur certains côtés, j'aimerais pas forcément être à leur place et j'en veux pas.
Mais voilà.
Mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir les pieds sur terre et savoir se regarder dans une glace.
Vous dites qu'ils sont déconnectés, en fait.
Exactement. Voilà. L'autre jour, je regardais M. Véran, hein, qui s'est fait apostropher par un restaurateur. Quand tu lui as posé la question sur combien coûtait, je sais plus quel produit, il était incapable de répondre.
Oui, non, vous avez pas tant en partie sur
donc
le
Patrice, aujourd'hui, ouais, coûte que coûte, même s'il faut sacrifier des vacances, même s'il faut perdre des journées de salaire, il faut faire grève, il faut faire reculer le gouvernement. C'est ce que
exactement,
vous dites, quoi.
Enfin. Parce d'accord. Parce que si la retraite passe, derrière, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont encore arriver à nous faire avaler comme couleuvre?
Merci, Patrice, d'avoir voilà, été avec nous.
Et je viens vous voir quand vous voulez à Paris pour une émission.
Eh ben, écoutez, un de ces jours, qui sait peut-être, monsieur le sapeur-pompier de la Drôme. On vous salue, Patrice.
Merci à vous.
Patrice déterminé, il le dit, voilà, pour faire plier le président, les ministres, ceux qui sont
Olivier
déconnectés, qui ne voient pas une France qui dégringole.
Olivier, moi, il y a un truc, je voudrais rebondir sur ce que t'as dit. T'as dit, oui, c'est mieux qu'avant, 1200 euros. Mais à condition que t'aies une carrière longue.
Oui. Mais non, mais je sais pas que c'est l'apanage, mais non, aujourd'hui.
Mais moi, aujourd'hui, il y a rien ne me fait croire qu'il y aura encore des carrières longues. Même depuis plusieurs années, ben moi je connais quoi, plein de gens, ils font des petits boulots le matin, l'après-midi. Moi-même, j'ai plein de boulots à droite, à gauche. Je veux dire, ça n'existe plus, les carrières longues.
On continue d'en discuter.
Les carrières linéaires non plus.
Donc personne
est-ce
n'aura
que
1200...
ce 11 février, qui est un samedi de chassé-croisée de zones de vacances, est-ce que ça doit être quand même un samedi de grève, quitte à gêner des millions de Français qui seront dans les gares, notamment. 32-16 pour continuer d'en parler avec les GG. Dans un instant, nous serons du côté de la Côte d'Or avec Anthony. Et puis, on passera un coup de fil à notre camarade Bruno Poncet mais aussi, oui, notre cheminot.
Que fait-il le 11 février
GG, pour voir, parce que c'est gros débat au sein des de l'intersyndicale en ce moment. À tout de suite avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story qui vous envoie en vacances, les grandes gueules. Vous avez le choix parmi l'un des 50 clubs Bellambra. À vous de jouer, à vous de gagner. Vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16. Vous partez à la montagne, vous partez sur la façade méditerranéenne, vous partez du côté de la façade atlantique, vous filez aussi sur la Bretagne si vous voulez. Vous choisissez, vous avez la campagne, le centre de la France à votre disposition. Choisissez votre destination. C'est une semaine, c'est en famille, c'est entre amis, comme vous voulez. Vous avez les animations aussi. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Rendez-vous tout à l'heure à 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules. On continue notre discussion sur cette fameuse journée du samedi 11 février. Bruno Poncet, notre GG cheminot est là. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Salut Bruno.
Alors, vive la merveilleuse Elina.
Ah, oh, merci Bruno.
Vive.
T'es célibataire, Bruno?
Oui. Plus ou moins, d'ailleurs.
Ah, d'accord.
Elina, c'est un gars compliqué, Bruno.
Alors, Bruno. Cette journée du 11, ça fait débat au sein même des syndicats, parce que c'est le samedi de chassé-croisé des vacances. Grève ou pas grève, alors?
Bah déjà, il faut attendre que les syndicats se positionnent. Moi, je sais que Sudrail et CGT sont en train de, avec les autres syndicats, sont en train de voir au sein de la SNCF ce qui va se passer, mais en tout cas, il y aura sûrement un appel à manifester, évidemment. Après, pour l'histoire de la grève, il faudra voir après comment ça se passe, mais de là à penser que tu vas perdre ta popularité parce que tu fais grève ce jour-là, enfin, à un moment donné, je pense que les gens, ils peuvent partir en vacances, quand ils reviendront, ils veulent toujours pas travailler à 64 ans, donc...
Je pense que
la popularité, c'est pas là que tu la perdras.
Oui, mais l'UNSA ferroviaire qui se pose des questions, qui est plus prudente. Elle dit attention, ce combat, ce n'est pas un sprint, c'est un semi-marathon. C'est-à-dire que ça va durer longtemps puisque le débat au Parlement, oui, c'est jusqu'à fin mars. Donc ça sert à rien de griller toutes les cartouches tout de suite, de brûler les étapes.
Ouais, mais après faut regarder aussi un peu le discours du gouvernement. Quand vous entendez hier Elisabeth Borne, en plus, qui ment assez facilement, enfin sur l'histoire que les femmes seront mieux traitées par cette réforme. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui a compris qu'elle... Enfin, toutes les femmes ont compris qu'elles avaient une bande montée hier soir. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette idée. La dernière fois, en 2018, sur la réforme ferroviaire, ça avait été les mêmes discours de dire « Ah bah attendez, ça va passer au Parlement ». Enfin, on a bien vu ce gouvernement. Dès qu'ils mettent un projet de loi sur la table, le projet qui passe, il y a rarement de modifications, voire même pire. C'est des fois même pire qu'avant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et je pense qu'il va falloir durcir le mouvement rapidement. Et donc, que ce soit le 11 ou un autre jour, de toute façon, ça ne va pas se passer que dans la rue, que dans les manifs.
Donc ça veut dire que de toute manière, on va vers un durcissement.
Bah, de toute façon, oui, parce que de toute façon, le durcissement, qui l'a commencé, c'est le gouvernement. Mmh. Aujourd'hui, ils ont arrêté avec les éléments de langage, de dire « Ah, vous inquiétez pas, les clients et tout ». Il n'y a plus de pédagogie. Aujourd'hui, c'est la réforme, elle sera mise en place et puis c'est tout.
Non, mais Bruno, on est bien d'accord que les manifs d'un jour et les grèves d'un jour, ça ne résout rien, quoi.
On n'a jamais vu
un gouvernement, oui, baisser fanion devant une grève d'un jour ou une manifestation d'un jour. Les manifestations, tu sais, comme moi, que ça sert strictement à rien, à part à se compter, se voir dans la rue, se soutenir, avoir une certaine euphorie et relancer un mouvement. Mais après, une grève, elle n'est valable que si elle dure, si elle dure.
Là, ça a du mal à partir, pardon, mais on nous avait dit les raffineries, je vois bien que les raffineries ne sont pas sur des grèves reconductibles, les cheminots, ils sont pas sur des grèves reconductibles, j'ai l'impression quand même que sur la base, ça part pas, hein. Ça part pas. Ouais. On manifeste une journée par semaine, mais ça, on part pas sur une grève reconductible.
On est toujours dans le frémissement. Et le taux de grévistes a baissé la dernière fois. Ouais.
Après, c'est pas une grève de cheminots déjà, et c'est ça qui est important. C'est une grève interpro. Et pour construire l'interpro, c'est quand même la première fois peut-être depuis 95 qu'on a la CFDT dans un mouvement de comme ça. Et donc,
et Laurent Berger est très énervé. Hein.
Oui. Après
les propos de Borne, il n'était pas content.
Oui, ce qui est logique. Mais après, le truc, c'est ça. C'est comment tu fais pour garder tout le monde? Parce qu'il est évident que si demain la CFDT sort, bah, ta popularité va en prendre un coup parce qu'ils vont dire encore, bah, c'est encore toujours les mêmes qui veulent faire grève et tout. Donc, il faut construire cette interpro et la rendre solide avant de partir dans un mouvement reconductible. Et on sait très bien que la CFDT, les mouvements reconductibles, c'est pas du tout leur truc. Donc il faut vraiment travailler, mais à un moment donné, je pense que notre meilleure chance à nous, et puis dans notre meilleur représentant actuellement, c'est le gouvernement qui n'arrête pas de vouloir durcir, de dire de toute façon elle passera. Oui. Et je pense que tant que Laurent Berger, lui, il dit que ses 64 ans sont totem à lui. Bon, après, chacun voit son totem, mais comme le gouvernement ne veut pas bouger là-dessus, moi je pense que de toute façon, on va partir en conductible. Hein. On partira en conductible, enfin tout ou tard, et je pense que ça risque de se faire dans le mois de février. Alors ça sera peut-être pas l'11, parce que l'11, il faut continuer, je pense, à construire. Mais à un moment donné, moi je vois les... Tu parlais des raffineries, mais les raffineries, ils parlent de se mettre en grève le 6-7-8, c'est-à-dire en début de semaine prochaine. Donc, on est quand même sur un mouvement, et on essaye, nous, de se rejoindre avec les raffineries, avec d'autres secteurs qui sont prêts à y aller. Après, il y a le sujet des vacances scolaires, qui là risque d'être un problème, parce que, évidemment, les profs, on va les perdre pendant quasiment un mois, dans certains endroits, quoi.
Mais merci, bon, Bruno. Merci d'avoir été avec nous à la semaine prochaine, Bruno. Merci.
À bientôt,
passe un bon week-end. Salut. Anthony et des nôtres, Anthony de Côte d'Or. Bonjour, Anthony.
Mais bonjour à tous.
Vous faites quoi dans la vie, Anthony?
J'essaie d'être heureux.
Ça c'est un
métier à plein temps, ça.
C'est un beau projet.
je sais pas si c'est pas le métier qui est le plus compliqué en ce moment. Non, je suis en professionnel de santé, en libéral, en pleine reconversion professionnelle, parce que je quitte j'ai pas signé pour ça, moi, il y a 20 piges. Donc, voilà, je suis en pleine reconversion professionnelle.
Vous étiez kiné, vous voulez changer?
Ouais, j'étais kiné-ostéo en libéral, ouais.
Et pourquoi, pourquoi vous dites j'ai pas signé pour ça?
Bah parce que j'ai pas signé pour travailler dans ces conditions-là, j'ai pas J'ai pas signé pour cette valorisation financière d'actes actuellement. J'ai pas. Moi, vous savez, je suis de la génération où j'ai entendu mes parents, mes grands-parents me dire fais des études, t'auras un beau métier, tu t'en sortiras toujours. Ah bah ça fait bien longtemps que c'est plus le cas, ça fait bien longtemps que c'est plus vrai. Et j'arrive avec tous ces à côté problèmes administratifs, financiers, ce genre de choses, à ne plus aimer le métier pour lequel j'étais, enfin auquel j'étais destiné.
Ouais, il faut rappeler que les kinés ont quitté la table des négociations conventionnelles, ont rompu les négociations. Là, définitivement chez vous, je crois, hein, parce que justement
on n'en peut plus, quoi.
Parce que ce qu'avait amené le gouvernement sur la table n'était pas à l'aune de leur rôle et responsabilité.
Vous allez faire quoi?
Mais comme tout, vous vous rendez compte qu'on me propose une augmentation brute de 4 centimes sur 2 ans. Mais à la limite, qu'ils les gardent, et puis je leur offre moi les 4 centimes, parce qu'à la limite, me donner 0 ou 4 centimes, je préfère qu'on donne 0.
Mais vous allez faire quoi?
4 centimes, c'est se foutre de ma gueule, en fait.
Anthony, vous allez faire quoi, là?
À peine.
Là, je suis dessinateur, illustrateur, je fais de la bande dessinée, et j'ouvre une fromagerie.
Ah oui?
Mais non.
Ouais.
On va vous mettre en rapport avec notre copain Johnny Blanc, il pourra vous donner des tuyaux.
Avec grand plaisir, ouais.
Alors, bon, revenons à notre journée de manifestation et de grève le 11 février. Qu'est-ce que vous en dites, Anthony, alors?
Alors, moi, la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il faut faire une journée de grève, de manifestation, un samedi, qui en plus, un chassé-croisé de vacances?
C'est ça.
La question, elle n'est pas là. Non, la question, elle n'est pas là. On parle beaucoup de d'autres populations et d'autres nationalités qui sont très conservateurs, mais en fait, en France, on est encore plus conservateurs. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment aller travailler jusqu'à 64 ans, subir ce qu'on nous impose depuis maintenant plusieurs quinquennats et septennats, parce que ça remonte à loin, hein, ce qu'on subit. Ce ne sont plus nos représentants, ce sont des dirigeants, il faut changer de nom, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut vraiment y aller, on ferme sa gueule, on rentre. Si on veut pas y aller, on peut pas faire juste une petite journée de grève, de manifestation, rentrer, mettre ses pantoufles et dire « c'est bon, je suis déculpabilisé, j'ai fait ma petite journée qui va bien ». Non. Il faut rien lâcher, tant pis. Vacances ou pas vacances, faut pas lâcher. Ou alors, on lâche, mais on ferme sa gueule et on vient pas la ramener derrière, on vient placer pas la main. Il y a un moment donné, il faut juste savoir ce qu'on veut. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller le 11? Non, c'est qu'est-ce que vous voulez?
Et vous, y serez le 11?
Moi, j'y serai, ouais. J'y étais déjà à la première manifestation le mardi, le jeudi. J'ai pas pu faire celle du mardi parce que, comme tout le monde, je me suis retrouvé en libéral en plus avec des journées chômées. C'est compliqué. C'est un samedi, je me pose même pas la question. Ah, donc, pour la manifestation, j'y serai.
Et vous êtes prêt à continuer à renouveler ces journées de mobilisation pour vous aussi, alors?
Mais bien sûr, mais on sait pertinemment, vous le disiez juste avant que je passe à l'antenne, on sait pertinemment qu'une manifestation, d'autant plus sur une journée, ça ne sert strictement à rien. Si ça servait à quelque chose, il y a bien longtemps qu'on n'aurait pas le droit de le faire. Donc, voilà, Coluche, il le disait il y a 40 ans. En plus, on vous dit où vous devez passer.
Mais bien,
vous rendez compte? Non, ce qu'il faut, c'est aller jeter des pavés dans les bonnes fenêtres et faire brûler les bons bâtiments. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas cautionner ce genre de choses, mais d'un autre côté, on est en train de se poser la question de savoir si ce n'est pas la seule solution qu'on va avoir.
Ça, Anthony, mais on a voté il y a moins d'un an. Hein, je suis désolé.
Attendez.
Bah, il fallait voter, il fallait se déplacer. On a voté il y a moins d'un an, et celui qui avait proposé la réforme à l'époque à 65 ans a été élu. Après, moi, je veux bien que 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, on refasse à chaque fois. Mais il fallait voter à ce moment-là. Il fallait pas voter pour celui qui proposait cette réforme si elle était insupportable, cette réforme.
Mais il faut aussi
que les Français se regardent aussi.
Sauf que le résultat des votes, il n'est pas représentatif d'une vraie population française et qu'il a perdu les législatives derrière et qu'il continue de passer en force.
Il a une majorité relative.
C'est pas grave.
Depuis tout à l'heure, on peut pas argumenter, Anthony, comme ça en disant il a été élu, donc maintenant.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour ça qu'il faut pas écouter la contestation sociale et qu'il y a pas. Moi, je vois bien le rejet massif de cette réforme qui semble effectivement incomprise. Mais sincèrement, il y a des élections aussi. Les élections, si on n'y participe pas, après, il faut pas pleurer, quoi. Voilà.
Non, mais je suis d'accord. Mais j'ai une question à vous poser. À un moment donné, est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui sont assis là-haut, c'est un doux euphémisme, ce que je vous dis, mais est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui sont assis là-haut sont encore les représentants de ceux qui sont en bas et qui bossent?
Vous avez dit une phrase juste. Dans la mesure où ce sont une partie de ceux qui sont en bas qui les élisent, oui, partiellement, mais oui.
En partie, partiellement,
mais oui.
Là, vous savez quoi? Si on veut vraiment que ça soit représentatif, qu'on la foute, la proportionnelle.
Parce que
mais
là,
de facto alliée à l'Assemblée, mais de facto alliée aujourd'hui, oui, à l'Assemblée nationale, la proportionnelle. Vous avez la, vous avez la NUPES avec les composantes écologistes, socialistes, France Insoumise, vous avez le Rassemblement National, vous avez des centristes, vous avez la droite, il y a tout le monde à l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'on a une majorité relative.
Et en fait, ils mangent tous dans la même gamelle, comme le disait votre pompier juste avant. Et en fait, c'est arrangé.
Oui, mais alors, oui, mais à partir de quel échelon, on mange pas dans la gamelle? Votre maire, par exemple, vous le mettez dans le même tas ou non?
Mon maire, de quoi? Il a pas d'étiquette, mon maire. Et je peux vous dire une
est-ce
chose.
Est-ce que les maires, non, mais je parle des différents échelons que l'on a dans notre vie démocratique. Est-ce que les maires, par exemple, c'est aussi ce que vous décrivez?
Non.
Voilà, non, les députés,
pour
oui.
Moi, la politique régionale, je dirais même presque locale, elle a rien à voir avec la politique nationale. Rien à voir. Rien D'accord. à voir.
Donc vous faites confiance plus au local.
Pour autant,
vos maires sont de grands électeurs, donc ils participent à la vie nationale en étant grands électeurs. Donc à ce moment-là, les gens qu'ils élisent sont pas vos représentants ou ils sont vos représentants?
C'est quoi pour vous un grand électeur? Il a une voix qui pèse plus que la mienne?
Non, c'est pas ça. C'est que vous avez un certain nombre de personnes dans la démocratie française qui sont élues par des grands électeurs, qui sont pas élus au suffrage universel.
Les sénateurs,
par exemple.
Ouais, les sénateurs, on en parle, c'est les seuls qui veulent pas qu'on touche à leur système de retraite.
Pourtant, ils sont élus par les maires. Donc c'est pour ça que c'est là où il y a plus, quoi.
C'est tout le monde ou personne, quoi. Vous voyez?
Je suis assez d'accord sur le sénateur.
Moi, je suis d'accord. Je te dis pas que je suis pour.
Donc
en fait, Anthony, vous voulez plus loin.
Moi, je le fais pas, mais faites-le vous.
Voilà, vous voulez aller plus loin, vous voulez un changement de système et de régime, quoi. C'est ça.
Mais
ce que vous
savez
voulez.
Quoi? Et je recite encore Coluche, mais on compte les blancs, hein, et on compte ceux qui sont invalides de bulletin. Ça veut dire quoi à l'arrivée? Ça veut dire que ça, c'est majoritaire. Et il y en a beaucoup qui disaient, oui, mais alors à ce moment-là, on fait quoi?
On revote.
Vous prenez du recul et vous vous dites que tous ceux que vous nous avez.
Mais ça, on est bien d'accord,
on
tous.
On n'en veut pas.
Bien
on
sûr.
N'en veut pas. Il n'y en a pas un qu'on veut. Mais comme c'est toujours les mêmes têtes, on nous dit d'aller voter, c'est du flan. Aller voter, oui, bien sûr, il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de voter. Et c'est super important parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des représentants.
Mais
ça fait bien longtemps qu'ils sont plus nos représentants.
Là où je vous rejoins, c'est que les représentants ou les dirigeants, comme vous les avez nommés tout à l'heure, très justement, sont des mal élus actuellement. C'est des mal élus parce que ça fait plusieurs élections où on vote pas pour, on vote contre.
Avec un taux d'abstention très important.
Merci Anthony d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à notre discussion.
Parce que personne ne voulait de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il est là.
Oui, ça d'accord.
Mais, oui, mais bien sûr.
Mais ça a été mis en place par Mitterrand qui a fait monter son père. Et puis à chaque élection,
oui,
on se démerde pour l'avoir en face. Parce que comme ça, on peut au moins diaboliser la personne qui est en face et on est sûr de passer. Et c'est comme ça qu'il est.
Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus à se démerder pour l'avoir en face. Merci Anthony d'avoir été avec nous. Que ce soit Anthony, à l'instant, le kiné en reconversion, ou Patrice. Le sapeur-pompier.
Le kiné qui va devenir fromager.
Juste avant, ce que l'on sent, c'est au-delà de la colère, c'est surtout de la détermination.
C'est intéressant.
C'est surtout ça. Merci d'avoir été avec nous, Anthony. On va regarder la question qu'on vous a posée. Voilà, grève en place chassé croisée. Est-ce que vous soutenez? Oui! Oui, à 62%. Et on est toujours sur cet étiage, qui ressort à chaque fois de 6 à 7 Français sur 10 qui sont contre la réforme des retraites, qui soutiendraient un blocage. Donc on est vraiment représentatif de ce que ressentent les Français aujourd'hui.
Non, mais les noms, à mon avis, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Tu vois ce que je veux dire?
Ils veulent partir en vacances, mais pas de réforme.
Voilà, c'est ça.
Dans un instant, on s'en fout pas avec les GG, avec les grandes gueules. Et puis tout à l'heure, à 10h, Édouard Philippe qui parle ouvertement de sa maladie, son alopécie. Est-ce que ça peut être un problème là pour Édouard Philippe dans le futur de sa carrière politique, d'avoir cette maladie, d'en parler ouvertement? Allez, 32-16 pour en parler tout à l'heure à 10h avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Qui est là aujourd'hui dans les grandes gueules? Qui est avec vous? Elina Dumont, intervenante sociale. Nous sommes avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, l'homme qui fait l'aumône. On va en parler dans le
sens. C'est un peu vrai. Hein.
Et puis Mehdi Guézard, chef d'entreprise.
À votre bon cœur.
Dans les Hauts-de-Seine et de la partie aussi aujourd'hui. Elle est là, elle arrive pour le plus grand plaisir de tous. Notre Anaïs. Productrice Anaïs Sen, c'est on s'en fout.
Les intimes.
Allez, go.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire. À quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour à tous. Les GG, on savait que la hausse allait être salée. Eh bien, ce sera pire que ça. Les prix d'électricité devraient augmenter en moyenne de 84%.
Combien ?
Pour les entreprises en 2023, selon l'INSEE, voire doubler pour les sites les plus énergivores du jamais vu depuis 40 ans. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi ?
Oh, pas du tout.
Elina ?
Pas du tout.
Jérôme ?
Non, moi je m'en fous.
Bon, bah alors Mehdi, notre chef d'entreprise.
Bah, je sais pas, 84%.
Alors c'est sans compter les aides gouvernementales. C'est
oui,
le
mais
prix.
C'est 84%
dans ton garage, ça te coûte combien déjà?
5 000 balles tous les 3 mois. De moyenne,
mais,
3 mois.
Mehdi, t'es d'accord avec moi? Ce qui risque de se passer,
je payais 1 000 euros.
Il va y avoir des licenciements.
Que je payais 1 000 euros il y a un peu plus d'un an. Je payais 1 000 euros.
Je suis passé de 1 000 à 5 000.
Ouais. C'est 60 jours pour la facture.
Je m'en fous, vite fait.
Non, mais
bah non, tu t'en fous, c'est trop tard. Mais
y a pas tu n'as pas de cœur,
on le sait. C'est qu'il n'y a pas que ça, c'est que quand tu demandes.
Quel égoïste.
Quand tu demandes une explication, ils te disent non, mais en fait, c'est un nouveau contrat. Oui. En fait, il n'y a pas d'explication à la chose. Tu vois ce que je veux dire? Ils te disent non, mais. Alors que je suis sûr que tous autour de la table, jamais quelqu'un, il y a 2 ou 3 ans de ça, pensait comme quoi les contrats étaient, c'était des contrats qu'il fallait renouveler, où il y avait une tacite de reconduction pour EDF ou pour Enedis ou pour Total. Enfin, pour nous, c'était quelque chose de logique, quoi. L'électricité, c'était l'électricité, ça montait par rapport à l'inflation, pas plus. Et ben là, ils te tapent des fois 4, fois 5, parce que le prix, il a quadruplé, voire quintuplé, et tu fermes ta bouche et tu payes.
Enfin, tu fermes ta boutique.
Bah, tu renégocies.
Parfois tu fermes ta boutique.
C'est l'industrie et l'agriculture qui sont les plus exposés à la hausse, plus 92%, le secteur tertiaire plus 77%, et les collectivités locales aussi, 66% d'augmentation. Voilà.
Anthony a dit quelque chose de bien. Il a dit on n'a pas des dirigeants, on a des...
Non, au contraire, on n'a pas des dirigeants.
Et ça, c'est, je trouve que c'est très bien ce qu'il a dit.
On continue.
Allez, on enchaîne.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage.
Vous avez reconnu?
Oui, c'est mon pote.
Fabien Roussel.
C'est ton pote. Ah, moi, j'adore.
Personnalité de gauche préférée des Français selon Elab. Elab, est-ce qu'on s'en fout ou pas du coup? Pas du tout. Elina, on s'en fout.
Ah non, mais moi, je
sais pas. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Je m'en fous pas, mais j'adore ce type.
Ok, Jérôme.
Non, on s'en fout pas, non.
Et Mehdi?
Je m'en fous réellement.
Alors, Elina?
Non, mais c'est... Bah, alors après, moi, je suis peut-être pas très objective. C'est pas une histoire de parti politique. C'est un gars que... Mais pas du tout, je te
jure. Toi, tu l'aimes bien.
Mais oui, je l'ai rencontré plein de fois. Il est vraiment égal à lui-même, qu'il passe à la télé ou qu'il soit dehors. Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs fois Mélenchon. Il est pas du tout pareil entre la télé et quand on le rencontre dans la vie. Hein. Non, puis c'est...
Non, il mange du quinoa, lui.
Comment?
Justement, Mélenchon, il mange du quinoa, lui.
Non, mais ça...
C'est le voilà.
Et puis, je pense qu'il représente bien la France.
En fait, ce que dit le sondage, c'est que les Français reconnaissent une forme d'authenticité et de liberté chez Fabien Roussel.
Les gens oublient
qu'il est de gauche.
C'est un peu la limite de ce sondage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme de gauche préféré des gens de droite. Donc, ce qui fait que quand il se présente à une élection, il fait 2%, parce que je rappelle quand même qu'il a fait que 2%.
L'homme de gauche qui ne fait pas peur.
Donc, c'est l'homme, par exemple, je suis sûr que Mehdi le trouve sympathique, Fabien Roussel.
On l'a rencontré.
Mais Mehdi, tu ne voterais jamais pour Fabien Roussel.
Ah, non. Ça, voilà. Il y a pas de risque, non.
Et donc, c'est toute la limite de Fabien Roussel. C'est-à-dire qu'effectivement, il est sympathique, il a un discours sur le travail, etc. Et le problème, c'est que les gens de gauche voteront pas pour lui.
On aime Fabien Roussel parce qu'il est pas politiquement correct sous plein de travers. C'est-à-dire qu'il se fout éperdument de ce que vont penser telle ou telle catégorie quand il dit, moi, j'aime la viande, moi, j'aime, voilà, quoi. C'est un petit peu le retour de balancier. De cette espèce de justement de politiquement correct. Ouh là là, il faut pas dire que on aime ça, il faut pas dire que.
Après
lui, il va dans ce sens et les Français en ont marre, ils n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'il aime bien quand il est comme nous, parce qu'il parle comme s'il était accoudé aux ingles du bistrot. Il prend pas de tu vois, il fait pas des contours, il cherche pas à ne pas gêner tel ou tel autre.
C'est
ça
qui est
intéressant chez lui. Après, il a des idées politiques qui sont pas à l'adéquation avec la majorité des Français, c'est une évidence, parce que la France est plutôt à droite.
Et puis lui, la droite, pourquoi la droite l'aime bien aussi? Parce que lui, il est à fond pour le travail. Hein.
Oui, très bien, mais la droite ne votera pas pour lui. Oui. Donc c'est toute la limite, à mon avis,
de sa droite. Pourquoi la droite, il m'aime bien? Parce que je m'en suis sorti, j'ai galéré, mais je m'en suis sorti.
Excuse-moi, mais il est très gentil. Hein. Moi, on l'a rencontré ici, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa.
Mais toi, tu t'en fous, t'as dit.
Non, mais je m'en fous. Mais entre Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas difficile d'être le numéro 1.
Ben oui.
Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas.
Les GG, passer la consultation chez le médecin de 25 à 26,50 €, c'est ce que propose l'assurance maladie. On est loin de la consulte à 50 € demandée par les médecins. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme?
Bah non, on s'en fout pas.
Elina,
je m'en fous.
Mehdi,
je m'en fous pas.
Alors, Jérôme, c'est pour toi.
Non mais. Bah oui, je pense.
On est en train de continuer la même politique qui continue depuis des années et des années et qui fait que la médecine de France est en train de s'effondrer. On a voulu ne plus miser sur les soins primaires. Les soins primaires, c'est la médecine de ville. On n'a plus voulu développer le paiement à l'acte. On a voulu forfaitiser les médecins. Et là, on continue à leur dire, allez, on va vous donner une piécette de 1,50€. Et puis, si vous vous engagez dans telle et telle chose, on vous donnera des forfaits. Et si on regarde depuis 10 ans, cette politique-là a échoué. Les jeunes ne s'installent plus. Les médecins déplaquent à tour de bras, les médecins s'épuisent, les Français ne trouvent plus de médecins, l'accès aux soins est devenu de plus en plus difficile. Ben non, on a un président, on a un ministre de la Santé et on a un directeur de l'assurance maladie qui nous disent, écoutez, c'est pas que notre politique est mauvaise, c'est qu'on n'est pas allé assez vite et assez loin, et ils continuent la même chose. Ben on va continuer à aller d'échec en échec.
Une provocation.
Oui, mais moi je pense.
C'est plus qu'une provocation.
Je pense néanmoins que votre revendication de passer de 25 à 50, je termine, n'a pas été pas comprise par tous. Hein. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, ils sont quand même gonflés, être augmenté, passer de 25 x 2 à 50. Personne n'obtient ça dans son boulot. On n'est jamais augmenté autant. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de communication?
D'abord, mon rôle de à la fois d'ici de chroniqueur et puis de syndicaliste m'oblige à te dire que tous les syndicats ne demandent pas 50. Nous, on le demande. Mais quand on dit 50, on dit il faut tendre vers 50€ pendant cette convention. C'est-à-dire que dans les 5 ans qui viennent, contre un certain nombre d'engagements, on dit donc on augmente chaque ans, année 50. Pour que dans 5 ans, on ait rejoint cette fameuse moyenne européenne. C'est ce que je peux appeler le point sur l'horizon. C'est pas du tout de dire on va basculer directement. Mais le problème, c'est le remboursement. Est-ce que l'assurance maladie, aujourd'hui, est prête à rembourser les Français pour qu'ils puissent bénéficier d'une vraie médecine de qualité? Aujourd'hui, manifestement, le directeur de la Sécurité sociale nous dit, ben non, on va pas vous rembourser au-delà de 26,50€.
Mais c'est pourquoi. Parce que moi, personnellement, mon généraliste, écoute, excuse-moi, c'est entre 30 et 35€. Et ben, je paye.
Il est en secteur 2.
En secteur 2.
C'est à Paris, il est en secteur 2, c'est 3% des médecins.
Explique ce que c'est que le secteur 2.
Ouais, c'est les médecins qui ont le droit à pratiquer des honoraires complémentaires. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul généraliste qui est en secteur 2 dans ceux qui s'installent. Ça a totalement disparu. 99% des médecins sont en secteur 1 et donc à 25€, plus quelques forfaits. Voilà, et avec 25€ à Paris, tu t'installes pas, tu t'ouvres pas un cabinet, demande à Médis qui paye en charge pour ses différents commerces ou ses différentes affaires, tu peux pas t'installer quand t'es médecin à Paris, c'est à 25€.
La seule chose moi qui me choque, c'est que tant que la séance d'UV dans un salon de bronzage sera supérieure à la consultation d'un médecin, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, parce que quand tu signes pour 30 minutes ou une heure dans un salon d'UV qui ça te coûte 30€, 35€ et que t'es là à faire des consultations à 25€ pour un médecin qui a Bac+8 ou Bac+10 pour un généraliste, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà.
Dans un instant, merci Anaïs.
Bah, je vous en prie.
Tu veux mon zizi?
Dans un.
Non, mais alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais non! Qu'est-ce que c'est?
Ça dérape! Ça dérape!
Olivier, dis quelque chose!
Je crois qu'on va pas
il a basourdi, il est anéanti. Il est affligé.
C'est un extrait d'Olivier Truchot sur BFM TV.
Mais non, je listais les chansons, les standards de notre ami Francky Vincent. Et il a chanté Tu veux mon zizi?
C'est vrai. Ne passe pas ça juste après de me remercier, c'est gentil.
Non, mais Anaïs Sens, bonne journée, tu veux mon zizi? Pas mal, c'est pas mal.
Non, on est pas loin d'un MeToo.
C'est pas mal, franchement c'est pas mal.
Là, c'est pire ça.
Oh là là. Dans un instant avec les grandes gueules, Édouard Philippe, non. Il parle de manière transparente, librement de sa maladie, l'alopécie. Est-ce que ça peut le desservir? Est-ce que ça peut le desservir dans sa carrière politique? À tout de suite avec les GG.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.